Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
L'Eucharistie transforme notre vie. Elle ne doit pas être seulement une parenthèse. Lors de l'audience générale, ce mercredi, le pape François s'est attardé sur la signification de ce sacrement pour l'Église et pour chacun de nous, et sur la place qu'elle doit avoir dans nos vies. Nous y revenons dès le début de ce magazine. Vous entendrez ensuite Mgr Zapalenga, archevêque de Bangui. Il condamne fermement les violences perpétrées en Centrafrique contre les musulmans. Les femmes seront également à l'honneur dans cette édition. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, nous donnons la parole à des femmes sénégalaises qui travaillent pour une radio en milieu rural. Bienvenue dans ce magazine. L'Eucharistie doit vraiment toucher notre existence et notre cœur. Le pape François l'a rappelé ce mercredi matin lors de l'audience générale. Le Saint-Père, qui est arrivé à pied place Saint-Pierre, poursuivait sa série de catéchèses sur les sacrements. Après le baptême et la confirmation, il a donc consacré pour la deuxième fois sa catéchèse à l'Eucharistie. Elle ne doit pas être seulement comme une parenthèse qui ne transformerait pas notre vie, a-t-il souligné. L'Eucharistie est une action du Christ, elle est la source de la mission de l'Église. Olivier Bonnel.
Comment vivons-nous l'Eucharistie? Que représente-t-elle pour nous? Le pape François, dans sa catéchèse, amène les fidèles à réfléchir au sens de ce sacrement et à la manière dont il se reflète dans leur vie. Le premier indice qui nous permet de comprendre si nous vivons l'Eucharistie de manière positive, indique le pape, réside dans la manière de regarder et de considérer les autres. Tous, nous allons à la messe parce que nous aimons Jésus et que nous voulons participer à sa passion et à sa résurrection, mais aimons-nous comme Jésus voudrait que nous aimions nos frères et sœurs les plus nécessiteux. Et le Saint-Père prend un exemple très concret. À Rome, ces jours-ci, affirme-t-il, nous avons vu tant de problèmes sociaux liés soit à la pluie qui a endommagé des quartiers entiers, soit au manque de travail. Quand je vais à la messe, comment est-ce que je vis cela? Est-ce que je pense à soutenir ces personnes? Est-ce que je prie pour elles? Demandons à Jésus, a-t-il poursuivi, Jésus que nous recevons dans l'Eucharistie, de nous aider à les aider.
Un secondo indizio molto importante è la grazia di sentirsi perdonati e pronti a perdonare.
Le deuxième indice très important est la grâce de se sentir pardonné et prêt à pardonner, précise le Saint-Père. Puisque le Christ s'est livré pour le pardon des péchés, la messe nous donne-t-elle la grâce de nous sentir pardonnés et de pardonner à notre tour? Si chacun de nous ne ressent pas le besoin de la miséricorde de Dieu, mieux vaut qu'il n'aille pas à la messe, déclare avec force le pape, rappelant que nous allons à la messe parce que nous sommes des pécheurs et que nous voulons recevoir le pardon de Jésus. Troisième indice, explique enfin François, c'est le rapport entre la célébration eucharistique et la vie de notre communauté chrétienne. L'Eucharistie est une action du Christ, elle est la source de la mission de l'Église. Par elle, il veut entrer dans notre existence pour que dans chaque communauté chrétienne, il y ait cohérence entre la liturgie et la vie.
Au terme de sa catéchèse, le Saint-Père, comme à son habitude, a pris le temps de saluer les fidèles, s'adressant en particulier aux malades et aux jeunes. Il leur a rappelé que vendredi prochain, on célèbre la Saint Cyril et Méthode, évangélisateur des peuples slaves et patron de l'Europe, que leur témoignage, a déclaré le pape, vous aide à devenir des disciples missionnaires. Direction à présent la République centrafricaine, où la situation est toujours particulièrement préoccupante. Dans un rapport, Amnesty International appelle à un déploiement en urgence des troupes en renfort dans les localités qui abritent des populations musulmanes. L'ONG dénonce une volonté manifeste chez les anti-Balaka, majoritairement chrétiens, de vouloir nettoyer la Centrafrique des musulmans. Des violences que condamne avec force Mgr Dieudonné Zapalenga, l'archevêque de Bangui.
Je dénonce, je condamne les exactions et je dénonce aussi l'amalgame qui est fait autour de cette situation, car l'imam et moi et le pasteur, nous parlons le même langage, nous avons posé le diagnostic depuis le début et aujourd'hui, on continue à jouer sur la fibre religieuse et nous refusons qu'on nous conduise vers ce chemin. Or, nous avons toujours dit que les musulmans ne sont pas des Sélékas. Tous les Sélékas ne sont pas musulmans. De même que nous avons dit tous les anti-Balakas ne sont pas chrétiens et tous les chrétiens ne sont pas anti-Balakas. Les gens s'en prennent à ce groupe parce que c'est pour aller piller, c'est pour aller venger, c'est pour exprimer une haine. Ce sont des sentiments purement humains et je pense que derrière ce qui se passe, il y a des gens que j'ai appelés des hommes politiques véreux qui utilisent les manettes. La preuve, vous avez des gens qui se prononcent comme des parrains de ces groupes. En aucun cas, ni un prêtre, ni aussi un pasteur avec qui je suis, ne s'est prononcé pour diriger et appuyer cette idéologie.
Comment faire pour être entendu par les principaux concernés ?
Nous avons refusé qu'on fasse l'amalgame et nous demandons à ceux qui utilisent, qui manipulent les jeunes d'être responsables au niveau national et au niveau international. Ce qui nous a conduit dans cette situation, c'est l'impunité. Des gens tuent et personne ne leur dit rien. Les gens pillent et incendient et ils sont toujours en bonne santé, ils circulent. Il va falloir que ceux qui ont tué répondent de leurs actes. Ça veut dire réparation de ces fautes-là. Et nous pensons qu'il est temps que la justice renaisse de ses cendres en République centrafricaine. C'est comme ça qu'on pourra aussi donner confiance aux pauvres qui attendent qu'une solution, une proposition soit faite pour qu'ils reprennent la quiétude. Actuellement, je vais lancer des appels en disant tous ceux qui se disent chrétiens et qui sont dans ce groupe, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont en cohérence avec leur foi. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et tuer son frère, brûler, détruire. On ne peut pas se dire qu'on est chrétien et chasser son frère. Le frère, c'est l'autre. Moi-même, j'ai accueilli le responsable de la communauté musulmane ici. Je vis avec et je demande à ce que, en plus, aussi les chrétiens le fassent autant. L'amour doit être le caractère propre des chrétiens.
Pensez-vous que le gouvernement de transition et l'ensemble des autorités de transition a les capacités pour pouvoir affronter ce sujet ?
Le gouvernement a besoin des moyens pour devenir efficace et efficient. Or, ce gouvernement qui est arrivé est confronté à des difficultés de tout genre. Il est temps que la communauté nationale et internationale apporte sa contribution pour aider ce gouvernement. Les gens ne sont pas payés depuis des mois. Nous avons aussi la justice qui est en panne parce que les gendarmes ne jouent pas leur rôle. Vous avez aussi les juges qui n'assument pas leur rôle. Les missions régaliennes dévolues à un État ne sont pas accomplies actuellement.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. La radio est à l'honneur en ce 13 février, jour proclamé par l'UNESCO et validé par l'Assemblée générale de l'ONU pour célébrer la Journée mondiale de la radio. Cette année, cet événement est dédié aux femmes dans le monde de la radio et à tous ceux qui les soutiennent. Nous avons donc choisi de donner la parole à des femmes africaines. Au centre-ouest du Sénégal, plus de 150 000 villageois, mais aussi des responsables politiques ou religieux, ont branché leur radio sur le 105 FM. C'est la fréquence sur laquelle émet depuis 2006 Guindoukou FM, une radio un peu particulière puisque sous le contrôle des femmes, elle œuvre à la promotion de la femme rurale. En 7 ans d'existence, cet espace d'expression a su s'imposer, devenant un levier d'influence réel qui a permis à des centaines de Sénégalaises de gagner en autonomie et de changer de vie. Marie Duhamel nous présente cette radio des femmes.
Il y a 14 ans, dans la région de Thiès, face à la déferlante propagation du virus du sida, une femme sénégalaise, Mariem Kéré, décide de fonder une association pour répondre aux inquiétudes de la population. C'est le début de centaines d'heures de route sur les sentiers pour organiser des dizaines de conférences, mettre sur pied des kiosques de santé, des groupes de promotion féminine dans quelques 140 villages. Après tout cela, la création d'une radio s'est révélée nécessaire pour les femmes de l'association rurale de lutte contre le sida. Bintou Fall en est la coordinatrice.
Après de longues années de sensibilisation et de création de beaucoup d'infrastructures, alors ARS a jugé nécessaire de créer une radio pour pouvoir vulgariser ses activités, mais aussi promouvoir le développement du leadership des femmes en milieu rural. En même temps, comme les villages sont un peu lointains, ARS aussi a voulu que le déficit de communication soit rompu. c'est l'objectif même de la création de cette radio.
Est-ce que ça a été difficile de mettre sur pied cette radio?
Ça n'a pas été si difficile. D'abord, ARF intervient dans un milieu où elle est très crédible. Et en plus, les populations avaient envie que cette radio soit créée parce qu'au début, on allait dans les villages et dans les autres contrées avec des mégaphones. Alors, elles ont jugé nécessaire de créer une radio pour que ça puisse avoir une portée beaucoup plus lointaine.
En 2006, la radio voit donc le jour et aujourd'hui, au siège de Thiébana, ils sont une petite dizaine, essentiellement des femmes, en charge de la technique, de l'animation et des programmes. Ils parlent de santé, d'agriculture, d'élevage ou encore des problèmes que rencontrent les Sénégalaises. Sur le terrain, l'association a formé un réseau de 85 femmes reporters, parmi elles, Adama Diot, du village de Tassette.
Je reporte toutes les activités sociales ou économiques de la localité, surtout aussi la situation de la femme, parce qu'au début, les femmes ne prenaient pas la parole. Avant la radio, on était dans la soumission, presque, on décidait à notre place. Parce que pour la tradition, la femme devait rester surtout dans la foyer, éduquer, faire manger. Donc il fallait tenir en compte de leurs problèmes pour leur motiver et faire des plaidoyers pour qu'ils assistent à des réunions pour se défendre personnellement. Ça a changé pour les femmes en général. Même il y avait des hommes qui ne voulaient pas que ça se passe comme ça.
Et ce fut le cas quand les femmes ont cherché à Tassette à participer à la gestion de l'école.
L'école de Tassette a été installée depuis 1957. Et chaque école a une association de parents d'élèves pour veiller à régler certains problèmes que le gouvernement n'est pas en possibilité de régler. Donc, cette association de parents d'élèves APMM, durant 57 et 2000, n'a été renouvelée qu'une fois. Non seulement qu'on ne renouvelait pas, mais on n'avait pas la présence des femmes. Or que chez nous, l'enfant est avec sa maman jusqu'à 18 ans. C'est la maman que j'ai. Maintenant, tous les APE, tous les deux ans, on doit renouveler cette APE et les dames doivent être dans ces instances pour prendre des décisions envers leurs enfants. Au moment où on a fait ces révolutions et que les dames étaient dans l'APE, alors le septième jour qu'on a installé cette instance-là, on a eu un sabotage très, très dangereux pour l'école. On a ouvert les classes, les armoires, les livres, tous les matériels didactiques étaient exposés dans la cour. Donc, ils nous faisaient peur pour vouloir nous décourager, pour qu'on dise « Ah, maintenant, s'il y a des sabotages, il faut laisser. » Après cette dévastation des matériels, on a fait ce qu'on devait faire. On a porté plainte contre X et on a continué notre travail.
Le droit à l'information est un principe fondamental de la bonne gouvernance et la radio a permis aux femmes rurales de Thiès de connaître leurs droits, comme celui par exemple de l'accès à la terre, mais aussi de développer leurs connaissances pour briguer des postes de responsabilité comme dans les associations de forage. Dans leur village, les femmes ne sont plus figurantes, mais des actrices de leur vie. La radio a joué et joue encore un rôle de sentinelle pour défendre les causes qui leur sont propres. Et si ce ne fut pas toujours le cas, aujourd'hui tout le monde semble s'en féliciter, comme nous l'explique Bintou Fall.
Vraiment, on sent que la population s'approprie le programme de la radio et même que les leaders qui sont dans les villages environnants et même qui sont au niveau local et même régional nous interpellent pour nous magnifier de reconnaissance et l'impact que les émissions de la radio a eu sur leur population. Il y a une femme qui nous dit qu'elle se sent construite par la radio parce qu'avant, elle se fâchait trop, elle n'avait pas intérêt à s'intéresser à les activités de développement, mais dès qu'elle a été cooptée comme femme reporter de son village, elle se sent leader maintenant. Elle sent qu'elle a un sacerdoce avec elle, c'est de pouvoir satisfaire son village et de pouvoir développer encore ses capacités pour être parmi les meilleurs des femmes reporters.
Forte de son succès sur un rayon de plus de 70 km, la radio Jingdikou est sollicitée par de nombreux villages de la région. Eux aussi voudraient leurs femmes reporters, mais pour l'instant c'est impossible. La radio manque de moyens pour les former et leur fournir du matériel.
Un sujet réalisé par Marie Duhamel à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Le patriarche d'Antioche des Maronites, le cardinal Béchara Boutros-Rai, a débuté mardi une visite de 2 semaines à Rome. Au cours de ce déplacement, il rencontrera le pape François et participera à la célébration qui se tiendra le 15 février prochain pour la fête de Saint-Maron. Avant de quitter Beyrouth, il a appelé à la formation, dans les plus brefs délais, d'un gouvernement qui ne plongerait pas davantage le Liban dans la crise afin de préparer les prochaines échéances électorales et en particulier la présidentielle. La semaine dernière, l'église maronite avait publié un mémorandum pour aider le pays à sortir de la crise politique. Le cardinal Rai a assuré que ce document a été expédié au pape François et qu'il serait au cœur des discussions avec le Saint-Père. On reste au Liban, où la Caritas locale a un nouveau président. Le père Paul Karam, prêtre maronite, prendra officiellement ses fonctions le 1er avril prochain pour un premier mandat de 3 ans. Il était déjà directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Liban. Très ému à l'annonce de sa nomination, il se prépare maintenant à sa future mission et notamment à faire face à l'un des défis les plus importants, l'arrivée massive de réfugiés syriens dans le pays.
Bien sûr, je n'ai pas encore toutes les données entre les mains, mais je sais qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites jusqu'à présent. La Caritas a aidé musulmans et chrétiens. Mais bien sûr, le patriarcat a déjà dit clairement et nettement que le nombre dépasse le 1,5 million. Donc c'est au-delà des capacités et des ressources, que ce soit matérielles ou autres, du Liban et de l'Église du Liban. Donc il y a aussi une responsabilité au niveau de la communauté internationale pour qu'elle puisse aussi assumer ses responsabilités vis-à-vis cet afflux des réfugiés. Et à mon avis, et ce que je dis toujours, comment pourront-ils toujours trouver l'argent pour faire la guerre, mais on peut presque pas trouver l'argent pour faire la paix et donner à manger à ceux qui en ont faim. Donc il faut faire beaucoup d'efforts au niveau de la communauté internationale, notamment les politiciens, pour que le climat de la paix règne à la place du climat de la guerre et de la haine.
Quels sont aujourd'hui les besoins humanitaires au Liban ?
Bien sûr, on a besoin de beaucoup de choses. Au niveau alimentation, au niveau aussi d'aide d'urgence. Et l'Église seule ne peut jamais assumer tout cela. C'est les États qui ont tout ce pouvoir matériel qui peuvent un peu mobiliser l'affaire pour qu'il y ait des aides vraiment concrètes qui puissent être au bénéfice de ces personnes qui ont quitté leur pays.
Donc pour vous, il faut vraiment qu'il y ait une réponse politique pour vraiment soutenir les besoins humanitaires.
Bien sûr, il faudra les deux axes. L'axe politique pour les négociations et le dialogue et la promotion de la paix, et aussi l'axe humanitaire pour que vraiment toutes ces personnes qui ont été hors de leur territoire, hors de leur foyer, puissent vraiment au moins vivre avec une dignité humaine et non pas délaissées ici-là dans des camps ou bien éparpillées dans tout le pays de Liban.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Le patriarche copte orthodoxe Tawadros II a rencontré mardi au Caire une délégation de l'Union européenne présente en Égypte. Lors de cet entretien, il a insisté sur l'importance du soutien et de l'accompagnement de l'UE sur le chemin entrepris par l'Égypte afin de sortir de la crise et de réactiver le plein fonctionnement des institutions démocratiques. Le 10 février dernier, le Conseil de l'Union européenne, dans une déclaration officielle dédiée à la phase actuellement traversée par l'Égypte, avait exprimé sa satisfaction pour l'adoption d'une nouvelle constitution, tout en notant l'absence d'un processus pleinement inclusif, le manque de tentatives visant à dépasser la polarisation de la société et la fermeture des espaces politiques aux opinions dissidentes avant et au cours du référendum. Ce magazine, merci d'être resté en notre compagnie.